un coup de projecteur de plus sur le problème qui vous préoccupe au quotidien.
En République démocratique du Congo, le choix de l'option à suivre pour les études secondaires divise souvent certains enfants et leurs parents. Il arrive que ces derniers imposent à leurs enfants de faire par exemple la section littéraire ou maths physique, alors que l'enfant aurait à une préférence pour la section pédagogique ou commerciale. Comment les parents doivent-ils procéder pour mieux orienter leurs enfants ? Participez à ceci vous concerne partout où vous êtes en République démocratique du Congo. Composez déjà le 081 890 63 94 pour participer, pour réagir, poser vos questions. Valentin Tungwa est là, il est chercheur en sciences de l'éducation et chef des travaux à l'Université pédagogique nationale. Encore une fois, monsieur Valentin, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est un problème, généralement, les enfants sont butés avant d'embrasser les études secondaires. Il y a un petit problème, un petit conflit qui naît entre les parents et les enfants. Le papa veut que l'enfant aille faire ceci et l'enfant veut faire autre chose. Et finalement, c'est le papa qui finit par s'imposer. Et c'est une réalité dans notre pays.
Vraiment une réalité que nous vivons dans nos milieux. Il y a vraiment de raisons fondamentales par rapport à ça.
Oui.
Les parents, généralement, ils croient connaître leurs enfants. Mais foncièrement, ils ne le connaissent pas.
Oui.
J'avais vécu une petite expérience. Il y a un papa, lors d'octroi des cartes d'identité à l'époque,
oui.
Le papa se présente, il devrait appeler chaque enfant par son nom, mais il y a des parents qui avaient des problèmes pour reconnaître même le nom de leurs enfants.
Ah bon?
Ce qui signifie le fait de ne pas connaître le nom de son enfant, oui. Le fait de ne pas connaître la date même de naissance de son enfant, ça signifie qu'il y a un problème de connaître cet enfant-là.
Et il y a certains qui disent, non, toi, l'enfant veut aller faire les lettres. Non, faut pas faire les lettres, qu'est-ce que tu seras dans la vie, un simple enseignant? Non, on va faire plutôt ceci, et voilà, ils ont des visées, quoi, pour leurs enfants.
Oui, oui, c'est ce que j'ai dit. En ce qui concerne l'orientation, il faut d'abord connaître la personne.
Oui.
Ça, c'est la condition sine qua non dans le processus d'orientation. Le fait de ne pas connaître d'abord les enfants, ça constitue une grande difficulté pour aider ces enfants à avoir une décision responsable. S'ils étaient enfants, c'est tout à fait normal que les parents puissent s'imposer par rapport à la nourriture.
Oui.
Mais avec le temps, ils doivent reconnaître que les enfants arrivent à développer leur capacité de décision. C'est pourquoi il faut collaborer avec ses enfants, dialoguer avec les enfants dans le processus d'orientation. Et d'ailleurs, je préférerais vous informer que l'agent principal de l'orientation, c'est l'enfant et non pas le partenaire, les autres partenaires de l'orientation.
Mais pourtant, il existe ce qu'on appelle le cycle d'orientation, première et deuxième année secondaire. Il semble que c'est pour orienter les enfants.
Oui, oui, ça c'est vrai. Mais parmi les moments de l'orientation, on dit d'abord l'orientation concerne l'enfant, l'adolescent, l'adulte et la personne de troisième âge.
Oui.
Ça ne signifie pas que c'est seulement... au moment du secondaire, il faut que le processus d'orientation commence depuis l'école primaire.
Mmh.
C'est comme ça que dans d'autres milieux, vous trouverez les conseillers d'orientation qui interviennent, que ce soit au niveau de l'école primaire. Et puis, le parent qui s'impose généralement, il y a un exercice que nous avons donné aux étudiants,
oui,
pour aller interroger le parent, pour voir pourquoi ils préfèrent que leurs enfants optent ou choisissent telle ou telle autre filière d'études.
Oui.
On avait trouvé que c'était une correction de leur propre orientation. Là où ils avaient échoué,
oui,
par exemple, ils devraient devenir médecin, ils trouvent que les médecins maintenant sont bien considérés dans la société,
mm-hmm,
et tout. Ils préfèrent que leurs enfants, comme eux, ont échoué d'aller là-bas, ils s'imposent pour que les enfants aillent là-bas. Or, peut-être que les enfants ne présentent pas de potentialité par rapport à ça, ne présentent même pas le penchant par rapport à ça. Vous comprenez que ça va tout faucher pour que ça ne résiste pas.
Mmh. Alors, composez les 081-890-6394, vous voulez participer, vous avez des préoccupations par rapport à l'orientation de vos enfants. Et appelez-nous, M. Valentin Tungwa, et les chercheurs en sciences de l'éducation et assistant à l'Université pédagogique nationale. Il va vous rendre service et répondre à vos préoccupations. Alors, comment les parents peuvent-ils arriver à déceler, par exemple, les aptitudes de leurs enfants pour déterminer que celui-là, il peut faire ceci ou il peut faire autre chose?
Le moment le plus favorable, on reconnaît que en famille, l'enfant affiche un comportement naturel. Par contre, au niveau de l'école, c'est un comportement conditionné.
Oui.
Les parents, pendant le moment de jeu de leurs enfants, c'est comme ça, y a des parents, au lieu qu'ils achètent le jouet pour les enfants, ils achètent ça pour eux-mêmes. C'est-à-dire, ils interdisent à leurs enfants de jouer avec le jeu, avec le jouet qu'ils avaient acheté pour eux. Par contre, ça c'est un moment important. Quand l'enfant est libre, il est en train de s'exprimer librement à travers le mouvement qu'il est en train d'effectuer.
Oui.
Et puis, il y a d'autres moments, ce qui constitue une grande difficulté dans le processus d'orientation. Les parents doivent avoir aussi les carnets. Un carnet sur le développement de leurs enfants. Par exemple, à quel moment l'enfant avait commencé à parler? À quel moment l'enfant, par exemple, avait commencé à marcher?
Il faut qu'on note tout cela.
C'est très, très important. C'est ce que vous devez remettre dans le processus d'orientation. Il y a ce qu'on appelle les fichiers d'orientation. Quand le conseiller d'orientation sollicite des informations auprès des parents, quelles étaient les difficultés, par exemple, au moment d'accouchement de votre enfant? S'il n'y en a pas dans le carnet, ça sera un problème.
Mm-hmm.
C'est ce qui ne constitue pas une habitude un peu chez nous. Or, c'est nécessaire d'avoir ça, un carnet, des grands moments de développement de quoi ça de l'enfant. Et cela peut vous mettre en contribution dans le processus d'orientation de l'enfant.
Voilà, donc les parents doivent noter tout ça, tout ce qui décèle chez leurs enfants, il faut noter ça quelque part.
C'est très très important, c'est très très important. Et à la longue, quand vous êtes en train de dialoguer avec l'enfant, même avec le devoir que nous avons entamé la fois passée, vous allez voir comment l'enfant s'exprime par rapport à ces devoirs-là qu'on est en train de lui donner. Est-ce qu'il présente beaucoup de difficultés au niveau des cours qui sollicitent, par exemple, l'intelligence linguistique? Est-ce qu'il présente des potentialités dans le cours qui sollicite, par exemple, l'intelligence logico-mathématique? Est-ce qu'il a plus de potentialités au niveau d'intelligence kinesthésique, au niveau d'intelligence interpersonnelle? Ce sont les informations que vous donnerez auprès du conseiller d'orientation en tant que partisan de l'orientation.
Mais est-ce que ces conseillers existent encore, ces conseillers d'orientation?
Oui, ils sont formés à l'Université Pédagogique Nationale.
Mais on ne les voit pas. On ne sent pas l'impact de leur travail.
C'est vrai, il y avait un moment où on avait supprimé le poste de conseiller d'orientation dans nos systèmes éducatifs.
Oui.
Mais maintenant, ils ont été réhabilités. Malheureusement, c'est plus dans des écoles au niveau de la ville ici, la ville de Kinshasa, en tout cas dans toutes les écoles secondaires, sauf au niveau des écoles privées où ça, vous savez pourquoi, ils préfèrent diminuer le nombre du personnel. C'est là où ça pose un peu problème, mais ailleurs, en tout cas dans les écoles officielles, les conseillers d'orientation sont affectés.
Vous voulez participer à cette émission, vous avez des préoccupations, c'est le moment, composez le 081-890-6394 ou écrivez-nous à action@radiookapi.net.
Radio Okapi, Okapi.
Pour participer à Okapi Service, appelez au 081-890-6394 et envoyez vos SMS au 081-070-2050 ou bien écrivez-nous à action@radiookapi.net.
Docteur Max nous appelle depuis la ville de Mbandaka. Docteur, bonjour.
Bonjour mon frère.
Vous avez la parole, docteur.
Merci pour la parole. Oui, j'appelle par rapport à l'intéressante émission qui est en train de passer sur Radio Okapi pour l'instant.
Oui.
Je pose un problème vécu, hein. Donc j'ai deux humaines qu'il fallait inscrire dans une école parce que, bon, il y a eu un décalage entre les deux. L'une qui devait passer en troisième et l'autre en deuxième. Mais il y a eu effectivement ce problème d'orientation parce que, bon, les discussions qu'il y a eu entre leur maman et moi, il s'est fait qu'il y a l'une des filles qui devait aller en biochimie et l'autre, selon leur maman, en coupe et couture. Bon, les orientations, Nous avons pensé les faire en fonction de l'aptitude de chacune, donc les jumelles.
Oui.
Ce qui fait que, bon, celle qui est en troisième, logiquement, qui semble avoir plus de capacité que l'autre, après discussion avec elle, il a semblé résolument qu'elle devait aller en biochimie, parce qu'elle voulait devenir médecin comme moi. Par contre, l'autre n'avait pas tellement d'orientation, et sa maman a pensé qu'en fonction du marché, parce qu'on va pas laisser les enfants faire, par exemple, la littéraire, ou, je sais pas moi, des gréco-latines, des choses comme ça,
oui,
seulement parce que le mot est beau, on a pensé que les enfants devaient être utiles à la reconstruction nationale.
Oui.
Et donc, voilà pourquoi la maman a pu me convaincre que l'enfant pouvait aller en coupe et couture. Encore que les pensées qu'on avait dans le passé par rapport à la coupe et couture sur terrain, évidemment, n'étaient pas reliables.
Oui.
Et donc, l'enfant a été orienté vers la coupe et couture. C'est vrai qu'il a fallu beaucoup d'éléments de persuasion pour qu'elle l'accepte. Mais nous avons pensé qu'en fonction, c'est vrai, des échecs et des réussites que nous, en tant que parents, avons eus, qu'il était important de savoir orienter l'enfant.
Alors, docteur Max, l'enfant que vous avez orienté vers la coupe couture, qu'est-ce qu'elle voulait faire elle-même?
Au départ, elle voulait faire la maths physique.
Maths physique. Alors, monsieur Valentin va s'entretenir avec vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire à docteur Max qui nous appelle de Banaka?
Oui, franchement, c'est un vrai problème. Ce qui entre en ligne de compte, ce ne sont pas seulement les capacités qu'il faut tenir compte. Il faut voir aussi les penchants de l'enfant. Parce que la profession, c'est une deuxième nature chez l'individu. À l'époque, les statuts sociaux étaient conférés par les enfants. Papa de Claude, papa de Jean. Mais dans le monde moderne, maintenant, le statut est conféré par la profession. C'est comme ça qu'on vous dira, ça c'est la maison de médecin tel, ça c'est chez l'avocat tel, ça c'est chez les professeurs. Mais maintenant, si la personne n'est pas contente de la profession qu'elle est censée exercer, vraiment, vous l'avez mis dans une difficulté terrible. Il va vivre dans des moments d'angoisse, de frustration durant toute sa vie.
Donc, docteur Max et madame devaient laisser l'enfant aller faire la biochimie au lieu de l'envoyer faire la coupe couture.
Oui, au même moment qu'il présentait les aptitudes, au même moment qu'on faisait des analyses sur le marché d'emploi, tenir compte aussi du goût de l'enfant, de l'attrait de l'enfant. C'est comme ça qu'il est nécessaire de concilier tous ces facteurs, parce que même par rapport au niveau de l'attrait, on peut bien se tromper. Il y a bien des tests qui existent, il y a des tests de personnalité que le conseiller d'orientation utilise pour connaître un peu l'inconscient de l'individu. Vous savez, quand on choisit une profession, il y a un test qui existe, on choisit en quelque sorte sa maladie. En quelque sorte, on choisit aussi sa forme de mort. Vous savez qu'il y a des maladies professionnelles, n'est-ce pas?
Voilà. Donc, on retient qu'il faut laisser l'enfant opérer son soin. Voilà. Merci, docteur Max, d'avoir appelé depuis la ville de Mbanaka. Nous avons d'autres auditeurs en attente. Merci, docteur, et bonne journée à Mbanaka.
Je vous en prie, merci, bonne journée.
Voilà. Papa Claude est en ligne depuis Lissala. Bonjour, papa Claude.
Bonjour.
Oui, quelle est votre préoccupation?
Bon, ma préoccupation est la suivante. Vous avez ouvert là un sujet très intéressant, mais dommage que dans nos milieux,
oui,
c'est ça que vous appelez conseiller d'orientation, nous ne les connaissons pas. Je ne sais pas s'ils existent vraiment. Ou peut-être dans les grandes villes. Ici à l'Israël, je ne connais aucun conseiller appelé conseiller
d'orientation.
Je ne sais pas ce que vous me dites à ce sujet.
Là, vous avez raison. C'est une grande lutte qui a été menée d'abord pour réhabiliter les conseillers d'orientation dans nos écoles. Maintenant, dans la nomenclature de nos écoles, on trouve un poste pour les conseillers d'orientation. Et à l'intérieur, très souvent, c'est au niveau des divisions. Ce sont ceux-là qui organisent, par exemple, les TENAFEP. Avec le temps, on est en train de travailler pour que le conseiller d'orientation, en tout cas, soit affecté partout. Vous savez que si maintenant... il y a tant de réformes, il y a tant de révisions dans nos systèmes éducatifs. Quelque part là, il y a beaucoup de trous que nous laissons aussi nous-mêmes. C'est comme ça que nous n'arrivons pas à très bien maximiser, à très bien évaluer un système qu'on a mis en place. Sinon, on est en train de travailler là-dessus et je suis sûr que le gouvernement va écouter la voix.
Donc on peut dire qu'à l'Issala, il n'y a pas, il y a pas un endroit où on peut trouver un conseiller d'orientation. Vous n'avez pas une idée, hein?
À l'Issala, je sais que nous avons une division. Là, vous avez parlé du Télafep, il y en a ceux qui organisent le Télafep. Mais avoir un conseil purement d'orientation à l'Issala, il n'existe pas.
Voilà, c'est un problème, il n'existe pas de conseiller là-bas. Monsieur Valentin, bon, c'est pas une question qui est à votre pouvoir, c'est, il revient plutôt aux autorités du ministère de l'enseignement de penser à cela. Voilà, merci d'avoir appelé Papa Claude depuis à l'Issala. Continuez à nous appeler au 081 890 63 94 pour poser vos questions. Nous recevons aujourd'hui Valentin Tungwa, expert en sciences de l'éducation. Avec lui, nous parlons de l'orientation scolaire des enfants.
Pour participer à Okapi Service, appelez au 081 890 63 94 et envoyez vos SMS au 081 070 20 50 ou bien écrivez-nous à action@radiookapi.net.
Donc, Monsieur Valentin, on retient que les parents ne doivent pas s'imposer devant le choix de leurs enfants. Ils doivent laisser les enfants libres à choisir ce qu'ils veulent faire dans la vie.
Heureusement que vous avez dit ils doivent laisser les enfants libres.
Oui.
La liberté ne signifie pas le libertinage non plus.
Oui.
Ça, c'est, pour moi, je vais voir d'une autre façon quoi cette chose. Il faut que les parents puissent encadrer les avis d'orientation de leurs enfants, c'est-à-dire collaborer avec ces enfants, être en contact avec d'autres partenaires éducatifs, notamment leurs enseignants, les conseils d'orientation.
Ils peuvent aller même poser des questions à l'enseignant pour savoir quelles sont les aptitudes de l'enfant.
D'ailleurs, dans le programme d'enseignement supérieur pédagogique,
oui,
il y a le cours des principes d'orientation scolaire et professionnelle. Donc, tout enseignant qui termine dans un IESP a des notions sur l'orientation. Cela n'empêche pas d'aller le contacter et parler avec les enseignants spécialistes. Comme ça, ils peuvent prodiguer des conseils.
C'est donc, Papa Claude Alissala peut aller voir les enseignants de ses enfants, ils peuvent l'aider quand même.
Oh, oui, oui, absolument.
Oui. Voilà, donc nous continuons à nous appeler. Nous avons un autre auditeur en ligne qui s'appelle Thérèse. C'est Jolie de l'Issala. Jolie, bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour Jolie. Vous avez la parole. Quelle est votre préoccupation?
C'est à propos de l'orientation des parents. Moi, je voulais suivre la biochimie.
Oui.
Alors, ils m'ont orienté vers la sociale. Bon, vous croyez pas que c'est pas bon de poursuivre le problème de l'orientation dans le goût des parents? Il faut aussi suivre dans le goût de l'enfant. Si l'enfant déclare que moi, je vais être docteur, il faut le laisser faire.
Ok, merci Jolie. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Jolie, Monsieur Valentin?
Oui, nous avons dit ceci. Il faut, on ne doit pas tenir compte tout simplement d'un seul aspect, qui est par exemple l'attrait. On voit plus la profession qui a de la considération au niveau de la société. Il faut voir aussi les aptitudes. Est-ce que, Maman Jolie, vous avez des aptitudes, vous avez des potentialités qui sont sollicités au niveau de la section biochimie? Et parce que la biochimie, par exemple, n'a qu'un seul objectif, c'est l'objectif promotionnel et non pas professionnel. C'est-à-dire, après avoir terminé en biochimie, vous êtes censé poursuivre les études à l'université. Et il y a des filières qui sont reliées pour qu'un enfant qui termine en biochimie puisse très bien se retrouver au niveau de l'enseignement supérieur universitaire. Est-ce que, Maman Jolie, vous êtes capable, par exemple, d'embrasser les études supérieures ou pas? Or, si vous terminez, par exemple, en social, je ne dis pas que les parents avaient raison, donc vous devez concilier votre attrait, votre penchant par rapport aux aptitudes aussi. Et en social, il y a l'objectif, il y a deux objectifs. Il y a l'objectif professionnel et promotionnel. Donc, vous pouvez terminer vos études et engager quelque part comme étant une assistante sociale. et vous travaillez. Par exemple, vous présentez des limites pour l'enseignement supérieur universitaire. Je ne dis pas des limites tout simplement
oui. intellectuelles. Alors, qu'est-ce que Jolie doit faire? Elle veut faire la biochimie. Les parents veulent qu'elle aille faire des études en sciences sociales. Qu'est-ce qu'elle fait dans ce cas?
Dans ce cas, elle est censée continuer à avoir des conseils aussi auprès d'autres partenaires éducatifs.
Donc, elle peut aller...
Notamment ouais. Ses enseignants.
Oui.
Dialoguer avec les enseignants, voir si réellement ses penchants, ses rencontres avec ses capacités.
Voilà. Donc Jolie peut aller voir ses enseignants à l'ISALA qui pourront l'aider à prendre une orientation. Gabi nous appelle depuis Lubumbashi. Bonjour Gabi.
Allô?
Oui Gabi, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Oui, on vous écoute Gabi.
Ok, je voulais juste poser une question. Hein,
oui.
Concernant ma jeune sœur.
Mm-hmm.
Elle m'avait proposé de l'aider dans l'orientation d'une section. Alors moi, je lui avais dit ceci. J'ai constaté que l'enfant n'était pas fort en mathématiques, mais elle avait proposé de faire la maths physique.
Oui.
Alors c'est ce que j'ai dit. Il n'y a pas moyen, en tout cas, au mieux, d'aller faire la section. Donc vous n'êtes pas fort en mathématiques. Je ne sais pas si je l'avais mal orienté.
Oui, quand on parle d'abord d'orientation, il ne faut pas prendre la décision en lieu et place de votre sujet. C'est ça, l'orientation est différente de la direction et différente de la sélection. Donc vous avez éliminé et puis c'est tout. Non, non. L'orientation, ça signifie que vous devez amener la personne à la maturité et la personne doit connaître son problème, doit se connaître et par après, il doit prendre une décision responsable. Mais par contre, si vous allez dire non, il ne faut pas faire telle section parce que vous n'avez pas de capacité, c'est dans telle autre section que vous allez présenter de quoi ça, à ce moment-là, il ne va pas choisir.
Parce que Gabi l'a orienté vers la pédagogie parce que la personne n'est pas à des faiblesses en mathématiques. Hein.
Non, c'est ces verbes-là que moi je cherche à corriger.
Oui.
Le sujet de l'orientation, c'est l'enfant que vous êtes censé aider.
Oui.
Donc, vous devez l'amener à avoir une décision responsable, l'amener à la maturité. Amener à la maturité, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie présenter des possibilités et par après, prendre une alternative.
Laissez la personne opérer un choix.
Libre, voilà. Opérer le quoi ça le choix.
Oui.
Mais par contre, si vous allez lui dire, tu prends telle option et abandonner de telle autre option, à ce moment-là, il ne s'agit pas de l'orientation. Ça, c'est une imposition auprès de votre sujet. C'est-à-dire, c'est bien de le persuader que ça, ce n'est pas bon. Voilà, tu présentes telle limite, tu présentes tel penchant et ainsi de suite.
Mm-hmm.
Mais par rapport à ces penchants, ça peut se réconcilier. Par rapport à telle capacité que tu es en train de présenter,
oui.
Voilà, par rapport à ces capacités, il y a telle filière d'études, il y a telle autre filière d'études. Vous présentez toutes ces possibilités et par
la
après,
personne opère le choix.
Son choix.
Librement.
Judicieux.
voilà, on va se séparer bientôt. Monsieur Valentin, dernière intervention. Moukoulou Germain Kabimania nous écrit depuis la ville de Kananga. Il dit, j'aimerais savoir entre parents et enseignants qui doit orienter l'enfant.
C'est l'enfant qui doit prendre sa décision. C'est ce que nous venons de dire.
Donc l'enseignant et les parents ne sont que des conseillers.
Ce ne sont que le partenaire de l'orientation.
Voilà.
Ils donnent les avis, c'est comme ça qu'on appelle ça les avis.
Mmh.
Ils donnent les avis d'orientation. Et là où il y a les conseils d'orientation, les conseils d'orientation donnent les conseils d'orientation. Ils donnent les conseils et l'enfant maintenant choisit librement, c'est comme ça qu'on dit un choix judicieux. Un choix responsable.
À
ce moment-là, il n'aura pas le temps de condamner. C'est un tel qui m'avait demandé que je puisse faire telle option ou telle autre option.
Voilà. Valentin Tungwa, chercheur en sciences de l'éducation, et vous êtes également chef des travaux à l'Université Pédagogique Nationale. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On espère vous retrouver encore une prochaine fois pour rendre service à nos auditeurs. Pour l'instant, on s'arrête là. Merci et au revoir.
Merci beaucoup.